au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 31 mars, j'espère que vous avez passé une belle journée malgré la grisaille. Là, c'est un peu moche comme température. Bon, à l'émission aujourd'hui, Isabelle Perrault, préfète de la MRC de la Matawinie, il sera question de vélotourisme. Avec Jacques Plante, on se pose la question, le PQ est-il en danger? Mathieu Lessard sera avec nous, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. On revient sur la semaine de sensibilisation à la violence dans les écoles. On aura aussi avec nous Sibi Flamand, chef de la communauté Atikamekw de Manawan. On va parler de la Journée internationale des langues autochtones. C'est aujourd'hui. Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, il annonce l'implantation de deux nouvelles entreprises dans la zone AgTech. Mais pour débuter, nouvelle sortie du maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay, à l'endroit des gouvernements supérieurs. Il dénonce l'application éventuelle de la loi 9 sur la laïcité de l'État dans les villes et la lenteur d'Ottawa et Québec de s'entendre dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada. François Morin lui a parlé un peu plus tôt.
Alors, Guillaume Tremblay, dans un premier temps, on récidive. Faut croire que le message n'a pas passé. On n'en veut pas de la loi 9 là, et surtout de ses contraintes là, pour les municipalités.
Ben, comme je l'avais déjà dit à vos ondes, clairement pour nous... c'est pas un enjeu municipal, là. Il y a d'autres priorités présentement au Québec que de s'occuper d'un prieur dans la rue. Je pense que quand on se promène dans la Lanaudière au complet, c'est pas des situations qu'on vit, qu'on voit. Maintenant, tu sais, j'invite le gros bon sens de la part du gouvernement du Québec pour s'assurer justement de peut-être mettre les bonnes priorités aux bons endroits. Je pense que les priorités, vous les connaissez. Il y a des gens, le coût de la nourriture, le logement. Donc, pour nous, clairement, c'est pas un enjeu numéro un présentement à travers le Québec.
Question, justement, de rafraîchir la mémoire des gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il y a de contraignant pour les municipalités dans la loi 9?
Bien, tu sais, ce serait nous qu'il faudrait qu'ils permettent, oui ou non, les permis pour le prière, les prier dans des lieux publics. Pensez-vous vraiment que le monde municipal, on a du temps à prendre pour dire si oui ou non tel groupe peut faire des prières dans la rue? Imaginez-vous la fête nationale, par exemple, je vais vous donner dans ma ville, il y a sur des terrains à l'extérieur, terrains publics, ils font toujours une petite messe. Ça n'a jamais affecté personne. Il y a du monde de partout qui viennent. Est-ce que vous commencez vraiment à légiférer par régler là-dessus quand c'est pas un problème dans nos communautés? Puis là, j'ai fait la tournée du Québec, je me suis promené, j'arrive la semaine dernière des îles de la Madeleine. Puis à travers le Québec, il n'y a pas un chat qui m'a parlé de cette réalité-là.
Compte tenu que c'est une loi, les municipalités n'ont pas le choix, à moins de la contester devant les tribunaux?
C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on repasse nos messages. On sait que la lecture article par article vient d'être terminée. On espère vraiment d'avoir convaincu les parlementaires de prendre la bonne décision pour le bien commun des citoyens et citoyennes du Québec.
Et tandis que je dis au bout du fil, mon ami, on parle encore de transport, une autre sortie là, sur les médias sociaux concernant la lenteur des gouvernements à s'entendre. Il y a des enveloppes qui sont attendues par les municipalités.
Ben écoutez, à cette veille du poisson d'avril, on pourrait penser que c'est une joke, hein? Mais non, malheureusement, c'est loin d'être une farce, parce que quand vous regardez la réalité, on est la seule MRC... la seule province du Québec présentement à ne pas avoir de projet au départ avec le nouveau fonds qui a été développé en 2023-24 par le gouvernement fédéral, à cause qu'il n'y a pas d'entente, encore une fois, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. La population est encore prise en otage pour cette mésentente. Puis on espère ardemment qu'on n'attende pas à la dernière minute avec les élections provinciales qui s'en viennent. Là, il y a des projets partout au Québec au niveau du transport en commun. Donc j'invite les deux paliers de gouvernement de s'entendre le plus rapidement possible, parce que là, présentement, on est pris en otage complètement.
Québec fait bande à part?
Il n'y a pas d'entente encore de signer entre Québec et Ottawa, tandis que dans les autres provinces canadiennes, il y a plein de projets de partie de partout, à cause qu'il y a des ententes. Donc, pour nous, c'est encore la population qui est prise en otage. Puis, vous le savez comme moi, que dans la belle province du Québec, on en a en quantité industriels des projets de transport en commun en attente. Au pays qui les sélectionne, là, on n'est pas... Mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de prendre le monde en otage à cause des échéanciers électorales. Je pense que c'est de la nouvelle façon, une ancienne façon de faire de la politique. Moi, je demande au palier de gouvernement de s'entendre le plus rapidement possible. Il y a des projets qui sont en attente présentement, faute de financement.
Dieu sait aussi qu'on en a un, il faut le rappeler, le projet du tramway de l'Est, qui a fait l'objet de certaines discussions la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il y a eu un bureau de projet, mais on n'est pas très avancé.
On n'est pas très avancé, mais vous allez comprendre qu'à titre de président de l'UNQ, je peux pas préconiser plus un projet que l'autre, parce qu'il y en a partout, de beaux projets à travers le Québec. Cependant, comme membre de Mascouche, on le regarde de très proche, ce projet-là, malgré que le train de l'Est a pris de la... disons que ça va un peu mieux, l'achalandage. Une heure et quart pour se rendre à Montréal, c'est les départs, les fréquences qui sont un peu moins... moins fréquente, mais de l'autre côté, le train de l'Est, on sent qu'avec le nouvel échangeur A40, ça va un peu mieux là, les gens pour se rendre au centre-ville de Montréal.
Bon, c'était le maire de Mascouche et président de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay. Toujours cette sempiternelle bataille entre les municipalités Ottawa et Québec. Dans un moment, un autre maire, cette fois un maire qui a une bonne nouvelle, Sébastien Nadeau de l'Assomption.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 29 mars. Gagne 133 et 33 avec la ligne DG, Joanne Beauchemin de Sorel-Tracy, grâce à une carte achetée au dépanneur Guylaine, Manon Charbonneau d'Entrelac, carte procurée au dépanneur Entrelac et Laurier Tremblay de Saint-Zénon, une carte achetée au dépanneur Rondeau. Gagne 4 000 $ au jeu de la carte pleine. Claudia Bertrand de Saint-Ambroise de Kildare, grâce à sa carte achetée au dépanneur au Petit Bourgeois Bonissoir. Et 300 $ ont été remportés au jeu de la carte pleine de la deuxième chance par Lise Bélanger de Saint-Jean-de-Mata, une carte achetée au dépanneur du Lac-Noir, et Claude Junior Leblanc de Saint-Michel-des-Saints, une carte procurée au Proxy Extra de Saint-Michel-des-Saints. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5 000 $ à gagner avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Fab, c'est du contenu qui fait résonner notre fierté.
Des territoires fabuleux à explorer.
Au Québec, on retrouve 11 nations autochtones qui m'inspirent.
Des humains inspirants à rencontrer.
Les contacts humains, là, c'est la plus belle chose.
Et surtout, des séries originales sur nos passions, nos histoires, nos artistes. Tout pour bien découvrir ce qui fait vibrer chacune de nos régions.
Fabriquer des choses, il y a quelque chose de satisfaisant au point de vue humain.
Fab, le fabuleux de notre culture, de nos humains et de nos territoires.
À regarder dès maintenant sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Ça ici, ben, oh. C'est mon salon.
C'est du style antique, ça, hein?
Oui, on peut dire ça, oui.
C'est un fauteuil de quelle époque, ça?
Ben ça, en fait, c'est de l'époque de mon cégep. 92-93, ces coins-là, là.
Vous êtes vraiment dû pour changer votre mobilier? CFNJ et Ameublement SJ Dion vous offrent l'occasion parfaite pour ça. Allez vous inscrire à cfnj.net et dites-nous quelle pièce chez vous mérite de la nouveauté et pourquoi. Meubles, matelas, électroménagers, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Du lundi au vendredi à 8h15, l'équipe de Lanaudière AM appelle une personne qui devient finaliste pour le tirage du 11 avril à 16h. 2 500 $ à dépenser chez Ameublement SJ Dion.
Dis, on s'inscrit?
Concours réservé aux membres. Pour les détails du concours ou pour devenir membre, visitez cfnj.net.
Ici Mark Carney. Face aux menaces croissantes, notre nouveau gouvernement se bat pour protéger notre économie, notre avenir et notre souveraineté. Pour réussir, nous avons besoin d'une équipe de députés qui travaille avec un objectif commun, nous rendre plus forts. Voilà ce qui est en jeu dans la prochaine élection partielle à Terrebonne. Cette fois-ci, joignez-vous à moi pour bâtir un Québec fort et un Canada fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Lanaudière PM. Économie.
Oui, il est 16h14. Le président de la zone AgTech et maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, a profité du 6e colloque AgTech du Québec là, pour annoncer l'implantation de 2 nouvelles entreprises sur le territoire de la MRC de l'Assomption dans les prochains mois. Il y a un producteur de crevettes, les fermes Boréa et la compagnie Au Menu qui est spécialisée dans la distribution d'aliments du terroir aux chefs cuisiniers de Lanaudière qui vont créer là, une 20aine d'emplois, selon Sébastien Nadeau, que notre collègue Régent Turgeon a eu l'occasion de rencontrer.
Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption et président de la zone AgTech. Bien, la réalité est qu'on est rendu au 6e grand colloque Altec du Québec. La zone est bien installée.
Très bien. On est très heureux de où on est rendu aujourd'hui. Ça dépasse même nos attentes lorsqu'on a initié le projet. La zone Actec aujourd'hui, ben, c'est rendu plus de 25 entreprises qui sont implantées dans la MRC de l'Assomption, qui sont rassemblées autour justement des technologies de l'agriculture. Pensez à l'agriculture innovante, pensez à l'avenir, pensez à la culture de proximité, d'être très sensible à tout ce qui nous impacts environnementaux. Donc, c'est la mission de la zone Actec. Alors, on est très heureux d'où on est rendu aujourd'hui.
Et là, on parle aussi de 300 entreprises accompagnées, qui sont pas nécessairement sur le territoire, mais qu'on accompagne, là.
Effectivement. La zone Actec est rendue une référence, non seulement au Québec, mais au Canada. C'est rendu le plus grand cluster en technologie de l'agriculture au Canada. Donc, on est très fiers que ce soit chez nous, ici, dans la région de la Naudière. On a accueilli, effectivement, 300 entreprises, aidé à s'implanter 300 entreprises, soit les mettant en association avec des chercheurs, des universités, des centres de recherche, soit les mettant en relation avec des fonds d'investissement pour permettre de passer à la prochaine étape, soit avec des professionnels, justement pour les aider à structurer ou à préciser le projet et les amener au marché le plus rapidement possible. Donc, un très beau succès à ce niveau-là.
Ce qui intéresse beaucoup les gens dans la région de l'Assomption, à Repentigny, c'est l'immeuble, le centre d'innovation qu'on est en train de construire en face des anciens terrains d'Electrolux. On le voit monter, là, un immeuble de 4 étages, même plus. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça doit ouvrir bientôt.
Oui, effectivement, le complexe en agro-animation et agro-technologie du Québec s'implante chez nous à l'Assomption. Donc, ces 2 étages vont être dédiés à Ciel, qui est un centre de recherche qui est en affaires depuis plus de 20 ans dans la région de la Naudière, donc solide réputation. Et il y aura 2 étages qui sont dédiés à la zone Actec, où on va offrir justement des entreprises, des laboratoires, laboratoires secs, laboratoires humides, des équipements à la fine pointe, des imprimantes 3D, des fraiseuses, pour construire justement des prototypes et des choses comme ça. Donc, puis des espaces bureaux aussi, des espaces de réunion, des espaces de production. Alors, c'est tout un lieu où, justement, on va rassembler puis on va offrir des technologies aux entreprises qui n'ont peut-être pas les moyens de s'y offrir, mais qui ont besoin de ça pour passer à la prochaine étape. Là où on est bien heureux, c'est que le chantier avance très bien. On est dans les échéances, puis notre ouverture qui est prévue pour janvier 2027 est encore ciblée comme date d'ouverture.
Et là, le taux d'occupation annoncé est fort prometteur. On parle de quoi? 60 à 70 % là, de preneurs.
Exactement. À date des espaces soit loués, soit réservés ou planifiés, on est rendu à 60 % des espaces qui sont construits. Ça dépasse nos attentes. Nous, on espérait arriver autour de 40-50 % à l'ouverture. Là, on est déjà à 60 % à 9 mois de cette ouverture-là. Alors, c'est très heureux. Puis, moi, je vous dirais que s'il y a des gens qui sont intéressés, de quand même faire rapidement parce que avec le colloque d'aujourd'hui où il y a encore 150 entreprises qui sont rassemblées, ben c'est des gens qui risquent de lever la main aussi.
Là, c'est un colloque où le président, vous, profitez de l'occasion pour faire des annonces. On nous dit dans un communiqué qu'il y aura 2 annonces importantes. Ben, on aimerait les entendre.
Oui, on peut vous donner ça en primeur. Effectivement, cet après-midi, on va annoncer qu'il y aura une entreprise qui va s'installer à l'Assomption, qui va faire de la production de crevettes. Alors, imaginez, il y a 7 ans, 8 ans, on aurait parlé qu'un jour, on va produire des crevettes à l'Assomption dans la Naudière. C'est incroyable de penser à ça. Alors, on aura maintenant des crevettes locales chez nous. Puis l'autre entreprise qu'on va annoncer, le support, c'est une entreprise qui a été fondée il y a quelques mois, qui s'appelle Au Menu. Donc, eux, ils produisent des micro-pousses, mais où c'est aussi un distributeur avec des restaurateurs. Okay. Alors, imaginez les chefs cuisiniers qui, à l'époque, allaient vers les marchés publics pour s'approvisionner chaque matin. Mais Au Menu, ce qu'il fait, c'est qu'il agglomère tous des producteurs locaux avec du produit frais au jour le jour. Et se spécialise dans la distribution de restaurants. Donc, c'est de s'assurer que les producteurs de chez nous aient accès à un réseau de distribution qui est très, très riche, très fort. Ça permet aux chefs cuisiniers d'avoir accès à des produits frais en tout temps.
Et ça, ce sont des emplois qui sont rattachés à ça. C'est des investissements quand même majeurs, là.
Oui, on parle, dans les 2 projets de que je vous parle, on parle d'environ 20 emplois de plus qui seront créés dans notre région. Alors, au cumul, on est déjà rendu autour de 200 emplois qui ont été créés par la zone Actec. On a encore beaucoup d'espace pour accueillir des entreprises. Il y a des terrains qui sont encore disponibles. Alors, il y a des opportunités qui sont grandes. Le projet d'affaires va très bien.
On avait dit au début, en tout cas, c'était un des objectifs sur le territoire de la MRC de l'Assomption, la zone Actec, on allait jusqu'à 400 millions de dollars de retombées économiques et d'investissement. On est toujours là.
On a encore ça comme cible. Je pense au complexe, le centre d'innovation. Contrat de construction avec le gouvernement, c'est un investissement de 47 millions. Il y a le parc industriel à Repentigny dans la zone Actec. Tous les terrains sont réservés ou achetés. Là, on va parler d'environ des investissements de 200 millions. À l'Assomption, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a deux autres sites qui sont annoncés, des investissements autour de 50-60 millions. Donc, oui, ça bouge beaucoup.
On a quoi se réjouir au final d'avoir eu cette idée il y a 6 ans et de l'avoir qu'elle se concrétise davantage?
Oui, on est très heureux d'avoir eu l'idée, mais surtout l'audace de continuer, parce que c'est un créneau qui était annoncé très porteur. Hein. Souvenez-vous, on était en début de pandémie, donc il y avait la quête de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, il y avait l'électricité en abondance, l'économie était florissante. Oui. Alors là, on est dans un contexte différent, puis le créneau demeure porteur. Alors ça nous a demandé un peu plus de patience pour arriver là où on est aujourd'hui, mais encore une fois, quand on gère un programme comme celui-là, faut penser sur le long terme, et les retombées se pointe.
Régent Turgeon qui s'entretenait avec le maire de l'Assomption et président de la zone Actec, Sébastien Nadeau, là, qui avait de très, très bonnes nouvelles.
Lanaudière PM, Première Nation.
En ce 31 mars, c'est la Journée internationale des langues autochtones dans les communautés. Ben, on souligne cette journée de différentes façons. Du côté de Manawan, on s'est doté d'une charte de la langue Atikamekw et François Morin a échangé là-dessus avec le chef Sibi Flamand.
Effectivement, la communauté de Manawan s'est dotée d'une charte de la langue Atikamekw qu'on appelle Kti. Manawan Neyrumwen Kti Mzinhigan, ça veut dire la charte de la langue Atikamekw Neyrumwen, notre langue maternelle, pour s'assurer de sa protection, préservation, puis aussi la sauvegarde. Donc, c'est une forme d'exercice d'autodétermination que la communauté exerce pour pouvoir protéger sa propre langue maternelle au sein des différents services, puis dans l'enseignement, puis également dans ces institutions politiques et culturelles.
Donc, c'est effectivement là, important de perpétuer cette langue ancestrale pour s'assurer justement de sa survie et que les générations futures continuent justement à la parler.
Effectivement, je pense que c'est nécessaire d'aller dans ce sens-là, d'adopter une charte pour protéger notre langue, qu'on protège notre langue, qu'on protège notre culture, notre identité culturelle, mais aussi notre rapport sacré au territoire, au Nedaskinan qu'on appelle. C'est notre langue, selon les aînés, ils disent que ça vient de notre territoire, puis le fait de protéger notre langue, qu'on protège également le territoire, mais aussi la faune, la flore, puis également la végétation. Je pense que c'est important qu'on puisse se doter d'un cadre qui répond à nos valeurs, à nos philosophies, puis c'est dans cet esprit-là que la communauté de Manawan a développé cette charte en usant les autres juridiques atikamekw.
Et aujourd'hui, 31 mars, c'est la Journée nationale des langues autochtones et on va souligner ça là, de différentes façons. Là.
Effectivement, il y a beaucoup d'organisations autochtones qui se mobilisent aujourd'hui pour défendre sur la protection des langues autochtones. Puis on se rappelle également que nous sommes en plein la décennie des langues autochtones au niveau international décrété par l'Organisation des Nations Unies pour reconnaître la contribution des peuples autochtones dans la science, mais aussi dans l'éducation. Puis t'sais, les langues autochtones, c'est important. Puis l'ONU c'est également doté d'une politique en rapport aux langues autochtones.
Et n'est-ce pas là une belle occasion aujourd'hui de sensibiliser les allochtones, dont je suis, à la possibilité d'apprendre justement la langue?
Effectivement, je crois que on vit sur un même territoire, par exemple dans la Lanaudière, je pense que ce serait important que les organisations, les institutions ou bien des entreprises puissent apprendre un peu notre langue pour comprendre aussi nos valeurs, notre réalité et puis notre philosophie. On parle bien la langue française, puis l'anglais également, puis pour ma part l'espagnol. Je pense que c'est une partie aussi le fait qu'on puisse se partager également nos cultures, puis aussi nos langues.
Là, je me suis lancé évidemment dans un, je dirais pas dans un débat, mais dans un grand projet. Est-ce qu'il y aurait une façon de développer justement une certaine forme de collaboration, notamment avec les centres de services scolaires pour permettre justement l'apprentissage de la langue?
Je sais que le Centre d'amitié autochtone de la Lanaudière offre des ateliers de formation sur la langue atikamekw, mais plus spécifiquement pour les jeunes atikamekw qui vivent dans la région de Joliette. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire du côté des conseils scolaires au niveau provincial également. Comment on peut travailler sur l'enseignement des langues autochtones, ne serait-ce que par région, là, par exemple, dans la région de la Côte-Nord, ils pourraient apprendre l'Inuaimon, en Abitibi-Témiscamingue, ils pourraient apprendre le Anishinaabemowin, puis ici, dans la Mauricie, ou bien dans la Naudière, le Nioromowin, la langue atikamekw.
En terminant, faut-il le rappeler? En fait, on va le rappeler parce que c'est peut-être pas connu de tout le monde. Il y a même une encyclopédie de la langue atikamekw qui existe depuis quand même un certain nombre d'années. Et, l'outil de travail va très bien.
Effectivement, les jeunes de la communauté puis un groupe ont travaillé sur une encyclopédie avec Wikipédia. Donc, les jeunes ont fait beaucoup de documentation, des recherches, des rencontres avec des aînés dans différents comités de travail pour élaborer une encyclopédie atikamekw. Puis c'est sur Internet, Wikipédia atikamekw. Donc, c'est important de le souligner. Puis ça fait quand même plus de 10 ans que cette démarche-là est dans l'actualité pour protéger et préserver l'ONAC, puis l'importance également de mobiliser les jeunes dans la recherche des concepts puis des idéologies ou bien des mots en atikamekw.
Bravo, chapeau. C'était le chef de la communauté atikamekw de Manawan, Sibi Flamand. Des gens qui prennent soin de leur langue, qui aiment leur langue et qui s'arrangent aussi pour qu'elle existe et qu'elle vive encore longtemps. Je vous jure que les francophones auraient intérêt à prendre exemple sur les atikamekw. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, à peine un peu nombreux à l'approche d'Henri Bourassa. Pour la suite des choses, ça va très bien pour franchir la rivière des Prairies, Repentigny. 40 Est, c'est facile. 341 montée de l'Épiphanie, c'est passablement dense à l'approche de la rivière L'Assomption. Pont le Gardeur, ouais, facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord, Laval, ouais, ça va bien. Également dans le secteur Terrebonne, Mascouche, assez facile. Le pont Sophie-Masson, facile en ce moment pour franchir la rivière des Mélile et finalement autoroute 640 entre la 25 et la 40. C'est facile en direction ouest. Direction ouest, un petit peu plus nombreux là, à l'approche de la montée du Mail. L'actualité dans un moment avec Pierre Jubinville.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Chez nous, chaque membre de notre équipe est totalement dédié à vous offrir la meilleure expérience possible et un service personnalisé. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette, là où l'expertise rencontre la passion. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Fab, c'est du contenu qui fait résonner notre fierté.
Des territoires fabuleux à explorer.
Au Québec, on retrouve 11 nations autochtones qui m'inspirent.
Des humains inspirants à rencontrer.
Les contacts humains, c'est la plus belle chose.
Et surtout, des séries originales sur nos passions, nos histoires, nos artistes. Tout pour bien découvrir ce qui fait vibrer chacune de nos régions.
Fabriquer des choses, il y a quelque chose de satisfaisant au point de vue humain.
Fab, le fabuleux de notre culture, de nos humains et de nos territoires.
À regarder dès maintenant sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Québec Redneck Bluegrass Project débarque pour une soirée explosive à Joliette le 20 juin avec le phénomène de l'heure, angine de poitrine et en première partie, l'énergie brute de Blam.
quand ça va bien, un cassé teint ce matin.
Le groupe présentera les chansons de nouvel album à venir ce printemps, sans oublier leurs incontournables. Viens célébrer le début de l'été lors d'un show qui promet d'être mémorable au parc Louis Kerb à Joliette. Réserve tes billets dès maintenant au spectaclejoliette.com.
Ici Mark Carney. Face aux menaces croissantes, notre nouveau gouvernement se bat pour protéger notre économie, notre avenir et notre souveraineté. Pour réussir, nous avons besoin d'une équipe de députés qui travaillent avec un objectif commun, nous rendre plus forts. Voilà ce qui est en jeu dans la prochaine élection partielle à Terrebonne. Cette fois-ci, joignez-vous à moi pour bâtir un Québec fort et un Canada fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
L'actualité de ce mardi 31 mars en manchette. Gilbert Rozon devra payer des milliers de dollars à ses victimes. Réaction à la vidéo montrant une policière vertement insultée par un citoyen et des méfaits à Lavaltrie. Tout d'abord, Pierre Jubinville, 8 des 9 victimes de Gilbert Rozon au civil seront dédommagées, oui.
8
des 9 femmes qui le poursuivaient au civil pour des gestes sexuels non consentis. La juge Chantal Tremblay n'a pas cru la défense de l'homme qui qualifiait les femmes de menteuses.
Dans des jugements cumulant près de 600 pages, la juge affirme que Gilbert Rozon utilisait des méthodes répétitives pour traquer ses victimes. Il les isolait grâce à un faux prétexte et agissait par surprise tout en profitant de sa position d'autorité. Même si ces éléments ne sont pas communs à toutes les histoires, les similitudes sont importantes selon la magistrate. Pour Martine Roy, cet élément est primordial.
C'est enfin voir cette vérité reconnue.
Sa collègue Annick Charrette souligne, elle, l'importance pour les femmes de dénoncer.
C'est pas ma honte. Moi, je vous dis, c'est à lui de baisser la tête maintenant.
Leur avocat, Maître Bruce Johnston, affirme que les victimes peuvent maintenant espérer davantage lorsqu'elles ont le courage de poursuivre.
C'est fini ce temps-là de l'impunité pour des gestes comme ce prédateur a commis.
Reste à savoir si Gilbert Rozon portera la cause en appel. Dans un bref communiqué, il ouvre grande la porte à cette possibilité. Annie Guillemette, pour que j'aie qu'aux nouvelles.
Ouais, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette vidéo, ma foi, totalement bouleversante, même, d'une policière qui se fait insulter à Montréal. De nombreuses réactions.
D'abord, le maire de Joliette, qui dit « quand l'insulte devient tolérée, c'est l'autorité publique qui recule ». C'est sa réaction en visionnant la vidéo dans laquelle une policière est insultée par ce citoyen. Bellerose, M. Bellerose estime que cet événement n'est pas simplement un dérapage individuel, mais le symptôme d'un relâchement collectif. Le maire de Joliette réclame qu'on agisse avec fermeté envers les individus violents. Il y a eu des réactions un peu partout, celle du Parti québécois, du député péquiste dont Joël Arsenault, qui croit que de tels individus devraient recevoir des infractions et des amendes.
On sait de l'avis des forces policières que ce cas-là n'est pas un cas d'exception. Ça se fait de plus en plus souvent. Donc, c'est le temps, justement, de donner un message non seulement à cet individu, mais à l'ensemble de la société que les forces de l'ordre sont là pour protéger la société et les citoyens et la population, puis qu'on ne peut pas abuser là, dans les propos que l'on tient, peu importe là, la condition dans laquelle on est. Là.
Éric Duhaime, du Parti conservateur, dit que ça ne se passerait pas comme ça du côté des Américains.
Aller n'importe où dans le monde, pensez-vous vraiment qu'aux États-Unis, si quelqu'un avait injurié un policier comme ça, qui aurait eu le même traitement que cet individu-là a eu, pensez-vous qu'après l'individu aurait été se vanter sur les réseaux sociaux de ce qu'il venait de faire à la policière? Jamais ça aurait été même toléré. Donc, je pense que ça, il y a un bout à faire, là.
François Legault qui est satisfait de son bilan économique malgré les sondages qui sont en défaveur de la CAQ. Là.
Il dit partir serein parce que l'économie du Québec a été redressée. En marge de l'annonce d'un nouveau parc éolien dans Charlevoix, M. Legault affirme qu'Hydro-Québec est en meilleure position que jamais.
Monsieur Legault, partez en beauté!
Devant une poignée de contestataires, François Legault a fait sa dernière annonce en matière d'éolienne.
1200 mégawatts
C'est le plus gros chantier au Canada.
Une façon pour le premier ministre de partir en beauté.
Je pars serein. Pourquoi? Parce que je suis satisfait de ce qui s'est fait en économie.
Et son legs, il souhaite que ce soit le réinvestissement de 200 milliards pour rehausser la capacité d'Hydro-Québec.
L'énergie, c'est ça l'enjeu mondial le plus important.
En ce sens, il dit quitter en toute confiance.
Si on agit de façon intelligente, le prochain siècle, ça peut être le siècle du Québec au point de vue économique.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, à Beaupré.
Et finalement, Pierre, des méfaits du côté de la Valdrie.
Oui, les malfaiteurs s'en prennent aux boîtes postales communautaires. Alors, le stratagème est le suivant. Les suspects endommagent la serrure des portes des casiers pour ensuite les refermer avec la colle pour y avoir accès ultérieurement. Alors, à ce moment-là, les suspects reviennent récupérer des cartes de crédit commandées avec l'identité de la victime à son adresse postale. La Sûreté du Québec recommande aux gens de vider régulièrement leur casier et de lui signaler toute infraction.
Ce qu'ils ne savent pas, là, ces suspects-là, c'est que souvent, il y a des caméras qui... Il y a des gens dans le voisinage qui ont des caméras qui pointent à l'extérieur, des fois, vers ces boîtes-là.
La Sûreté du Québec les visionne peut-être déjà.
Exactement. Merci, Pierre Jubinville. Il est 16h35.
Lanaudière PM. Lanaudière PM.
Claude Fournel.
Lanaudière PM. Éducation.
Au terme de la semaine de sensibilisation sur la violence dans les écoles tenue sous le thème « As-tu le droit? », force est de constater là qu'il faut aller au-delà des slogans. Les interventions étaient axées là cette année surtout là sur les relations entre les élèves, alors qu'il y a beaucoup d'enseignants qui subissent aussi de la violence. C'est pourquoi la Fédération des syndicats de l'enseignement réclame une enquête de santé publique. Un entretien de François Morin avec le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mathieu Lessard.
Ben que la dernière semaine, elle est symptomatique de tout l'ensemble du calendrier scolaire puis de ce qui se vit dans les milieux. Il faut se rappeler que la semaine de la prévention là, contre la violence scolaire, l'intimidation, là, ça émane du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, là, qui voulait qu'on prenne le temps de se parler dans les milieux. Cette année... Il y a eu un thème, évidemment, là, qui était propre à l'édition 2026. C'était « As-tu le droit? » Pour inviter les gens à se questionner sur leurs gestes, leurs paroles, sur une base quotidienne. Mais c'est beaucoup axé entre les élèves. Puis si on l'applique, évidemment, au personnel enseignant qui subit de la violence là, à près de 85% sur une enquête qu'on a menée l'année dernière, faut croire que les gens ne se posent pas trop de questions. C'est d'ailleurs ce qui amène la FSE, là, la Fédération des syndicats de l'enseignement, à demander d'ailleurs la tenue d'une enquête là, de la santé publique là, en ce sens, parce que au-delà de toutes les actions, comme la semaine de la prévention de la violence, ben il faut aller au-delà et comprendre ce problème-là de santé publique de façon systémique qui mine la santé du personnel enseignant, mais aussi la santé psychologique et physique des élèves.
C'est pas la première fois que vous et moi on échange sur la question de la violence dans les écoles. Le thème de la dernière semaine, c'était « As-tu le droit? » Est-ce qu'on n'aurait pas dû poser la question autrement? « As-tu des obligations? »
Oui. Tous les droits viennent avec des obligations. Hein. Les droits et les devoirs, ça date là, de nos cours d'histoire puis du développement de l'humanité. Dans la loi, pourtant, c'est bien inscrit que les élèves doivent adopter un comportement empreint de civisme, puis exempt de violence, puis tout ça. Même au niveau de la société civile, hein, on est obligé comme organisation syndicale, mais aussi comme employeur, d'afficher à gauche et à droite des panneaux qui réclament le respect pour tous et chacun dans le cadre de leur fonction. Fait qu'effectivement, c'est la question à se poser. Avez-vous des droits? Oui, mais avez-vous des devoirs? La réponse à ça, c'est oui. Puis il y a une bonne partie de ça qui part de la maison. L'école peut pas pallier à tous les problèmes et elle subit évidemment les affres et les désorganisations de la société civile parce que l'école, c'est un microcosme de la société. Fait qu'effectivement, tout le monde a des devoirs. Puis il faut prendre le temps justement de se regarder dans le miroir, individuellement comme collectivement. Puis c'est un peu ça aussi qui est souhaité par la démarche via la santé publique.
Vous soulevez une demande qui a été formulée, soit une enquête de la santé publique concernant la problématique. sauf et de constater que par les temps qui courent en politique, on applique l'adage, c'est-à-dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Ben, on n'a pas le choix minimalement là, de considérer l'intérêt majeur et primordial des élèves, petits comme grands, et du personnel qui œuvre auprès de ceux-ci. Parce que on a eu beau adopter des lois, adopter des slogans, mettre sur pied des semaines, il faut prendre un pas de recul parce que force est de constater que quand ça fonctionne pas, là, tout ce qui a été mis en place, ben il faut prendre un petit pas de côté là, puis analyser ce qu'on a fait puis essayer de comprendre. Parce que sinon, ben, on va continuer à répéter des stratégies inefficaces en prétendant qu'on est actif, puis qu'à un moment donné, peut-être que ça va se régler. Ben, ça, on le vit même dans nos milieux, là. Qu'on est confronté à ça sur une base quotidienne où on se fait répondre, même par la CNESST. Ben, il y a des choses qui sont mises en place, donc c'est correct. Mais quand le personnel se fait frapper, quand les élèves se font menacer, quand les classes se vident, ben, force est de constater qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système. Puis c'est un peu ça qu'on souhaite, justement, par cette enquête-là, c'est de dire, malgré tout ce qui est fait, tout ce qui a été fait, ben, il faut regarder ailleurs puis comprendre ce phénomène-là. Puis ça, ben, c'est le rôle aussi que va jouer la santé publique.
On s'entend dans le contexte politique actuel, ça ne sera pas demain matin, donc il va falloir attendre la formation d'un prochain gouvernement et retaper sur le clou pour s'assurer que ça va se tenir.
C'est sûr qu'enseigner, c'est répété, donc les demandes vont revenir. Mais j'espère qu'on va justement être en mesure de sortir de la politique partisane. Parce que si on prend réellement à cœur la santé publique, tant du personnel que des élèves, ben peu importe la couleur politique, là, on va donner un mandat. Puis après ça, il y aura le rôle de l'opérationnaliser, puis c'est là qu'il y aura du politique. Puis l'opérationnalisation, ben, elle se fera pas dans la période, je veux dire, préélectorale. Fait que donnons le mandat à une organisation qui est apolitique, qu'elle puisse justement faire son travail de qualité, donner des informations à l'ensemble des intervenantes et des intervenants pour qu'on puisse, une fois pour toutes, s'asseoir puis arrêter de faire des petites mesurettes, mais de vraiment prendre le problème à bras-le-corps puis considérer l'intérêt de toutes et de tous. Puis là, je parle tant des élèves qui ont des difficultés que des élèves qui subissent cette désorganisation-là, puis le personnel par la bande, bien évidemment.
C'était Mathieu Lessard, le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. Il est à 16h41. Dans un moment, Jacques Plante.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens, joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
C'est la semaine Rona. Des gros rabais du 26 mars au 8 avril. Fait qu'on appelle tout le monde.
Allô?
Julie, sais-tu c'est quoi la semaine Rona?
Des gros rabais chez Rona.
En plein ça!
Allô?
Steve, sais-tu c'est quoi la semaine Rona?
Non, je dormais.
Réveille Steve, c'est des rabais du 26 mars au 8 avril chez Rona.
OK.
Prochain appel.
Ici Mark Carney. Face aux menaces croissantes, notre nouveau gouvernement se bat pour protéger notre économie, notre avenir et notre souveraineté. Pour réussir, nous avons besoin d'une équipe de députés qui travaille avec un objectif commun, nous rendre plus forts. Voilà ce qui est en jeu dans la prochaine élection partielle à Terrebonne. Cette fois-ci, joignez-vous à moi pour bâtir un Québec fort et un Canada fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'expert dépanneur Beaussoir. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napole. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro-Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra et marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur Beaussoir. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Au concert du dimanche à CFNJ, Jacques Brel.
Telle est ma quête, suivre les toits.
Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
Salut Claude, salut tout le monde.
Le Parti québécois est-il en danger?
Effectivement.
Oui.
Je pense qu'il faut regarder un peu ce qui se passe actuellement et on le voit. La lutte se fait pour le moment avec le dernier sondage léger entre le Parti libéral et le Parti québécois.
33% au niveau pour les deux.
Oui, au niveau, c'est-à-dire tout électeur confondu.
Ouais, dans okay. Les intentions de vote partout au Québec. Donc, 33% pour le Parti québécois qui a perdu un point et 33% pour les libéraux qui ont gagné 3 points dans ce récent sondage léger.
Et quand tu regardes juste au volet des électeurs francophones, le Parti québécois a quand même encore une très bonne avance.
Oui, oui, 41%, 23% pour les libéraux.
Mais remarque, les libéraux, 23%, mm-hmm. Ils en ont gagné beaucoup, là.
Oui. Le travail pour les libéraux reste à faire en région. Ça, c'est là qu'est le problème pour le Parti libéral, on le sait. Parti québécois, les régions, ça va. Mais le Parti québécois se fait gruger de plus en plus par le Parti conservateur.
Mais là, il fait les gains, il est à 15%.
Oui, Parti conservateur qui arrive à 15% dans les intentions de vote un peu partout au Québec. Et si on recule il y a environ un an de ça, lorsqu'on regardait les circonscriptions dans la région de Québec, on voyait que c'est des circonscriptions qui s'en allaient au Parti québécois. Et maintenant, il y en a une forte proportion qui s'en vont au Parti conservateur.
Bien, quand on se souvient de la dernière campagne électorale provinciale, tu regardes, ça a chauffé dans Chaudière-Appalaches, notamment les deux circonscriptions de la Beauce. Là, les conservateurs ont chauffé pas à peu près la CAQ. Tu regardais dans la région de Québec, il commençait à avoir de l'émergence qui se faisait un peu partout. Et là, ça semble vouloir se concrétiser de plus en plus. Ce qui est important, et ça, je pense que les deux principaux partis là qui luttent pour le moment, alors je parle du Parti québécois et du Parti libéral du Québec, ces gens-là, l'organisation, tout le monde est très conscient qu'il va falloir travailler fort. C'est pas gagné encore. Il reste que de là à dire, et là c'est moi, la manière dont je le décode, là, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, que le Parti québécois est en situation de perdre le pouvoir, je dirais, on n'est pas rendu là.
Mais dans la situation actuelle, on parlerait d'un gouvernement minoritaire.
Ben, on est en plein sur la ligne, parce que là, il faut pas oublier, dans un sondage, il y a des pourcentages de marge d'erreur, là, ce qui fait que quand on regarde en termes de sièges, ça serait à peu près ça, soit un siège de plus ou un siège de moins. On est dans la marge de la majorité.
Mais là, en étant minoritaire, donc en bas de 63 sièges pour le Parti québécois, on oublie le référendum de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, il pourra pas faire de référendum, ça c'est clair, même s'il avait l'appui de 2-3 députés solidaires.
Non, parce que en quelque part, ça passera pas. Non, ça serait de jouer avec son gouvernement.
C'est pas le référendum, l'idée du référendum là, qui a nuit à Paul Saint-Pierre Plamondon?
Ben, tu sais, on en avait déjà glissé un mot à une émission, à Claude. Moi, bon, c'est sûr, là on le sait, là, un des points de la campagne, ça va être ça. Mais on espère, et en tout cas, moi, j'espère que ça ne sera pas juste ça.
Mais si Paul Saint-Pierre Plamondon tentait d'éclipser le sujet du référendum pour un certain temps,
et là, il est dans
les libéraux vont le ramener sur la table, ce point-là.
Oui,
c'est sûr.
Oui, non, OK. Parce que ça fait partie d'une promesse, là. C'est coulé dans le béton. Ouais. Alors, si jamais il y avait un recul, quel qu'il soit, là, les gens vont dire, hey, c'est veille capot en quelque part. Là,
et non, mais il peut pas l'éclipser totalement parce que les purs et durs du Parti québécois vont être en beau fusil. Là.
Non, puis c'est ce qu'il véhicule. Là, c'est une question de crédibilité pour l'individu même. Là.
Ouais.
Lui a dit, dans un premier mandat, là, qu'on s'en fâche d'un fleur du tapis, il a dit, première année, deuxième année, troisième ou quatrième, un mandat, c'est 4 ans. Là. Il a dit, dans un premier mandat, il y aura une consultation populaire. Ça, il peut pas reculer là-dessus. Oui, de l'autre côté, comme tu viens de le dire, les libéraux, ça va être le cheval de bataille, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous avez aussi d'autres choses pour cramer le gâteau? Parce que si on ne parle que de ça, moi, là, j'aurais peur que les gens disent « Hey, là, on a assez, on s'en va vers du M. »
Paul Saint-Pierre Plamondon nous présentera dans les prochaines heures une candidature de poids au niveau finance pour le Parti québécois, un dénommé Branchaud qui se présentera dans Saint-Maurice, qui sera en quelque sorte son genre Parizeau, là.
Ouais, il a fait une présentation. Là, j'ai vu ça. Je sais pas où j'ai vu ça. On consulte tellement de fils de presse de quelqu'un qui est assez une grosse pointure. Mm-hmm. Il continue à nommer ses gens.
Ouais.
Et je pense pas qu'il y ait de la difficulté. Tu sais, quand on disait, M. Tanguay disait au Parti libéral, le téléphone sonne. Je pense que Saint-Pierre Plamondon, le téléphone sonne. Il y a peut-être beaucoup de gens qui... Je comprends, le gars.
Il n'y a pas de difficulté à recruter des candidats,
non,
ça, c'est sûr.
Je pense pas qu'il y ait de la misère avec ça. C'est de faire le bon choix, de trouver les bonnes personnes. Et il le fait de façon intelligente parce que on n'est pas encore en campagne électorale, mais c'est le temps de faire ça là que de faire ça à la dernière minute puis de s'apercevoir à un moment donné qu'on a des candidats qui traînent des squelettes dans le garde-robe.
Bon, on le sait, c'est une dégringolade totale pour la coalition Avenir Québec qui est à 9% dans ce sondage. Il faut croire que la course à la chefferie n'aide pas la CAQ et que les gens qui étaient encore du côté de la CAQ balancent de plus en plus vers le Parti libéral parce que ceux qui avaient à quitter la CAQ il y a un an l'ont déjà fait vers le Parti québécois.
Oui, ça c'était la première sortie, ça allait vers le PQ, ça c'est officiel.
Exactement, et il y a un transfert, moi je dirais qu'il y a aussi un petit transfert de la CAQ vers le Parti conservateur. Maintenant, est-ce que le Parti québécois peut aller gruger dans les grenades du 9% de Québec solidaire? C'est-à-dire que le 9% de Québec solidaire est particulièrement concentré sur des circonscriptions montréalaises.
Oui, c'est ça.
Mais oublions pas qu'en région,
il y a des votes
QS, des fois à 5, 6%.
Oui.
Est-ce que le Parti québécois pourrait pas aller faire de l'œil à cet électorat-là qui a tendance à aller vers Québec solidaire les amener de leur côté? Parce que oublions pas que le PQ, c'est un parti fourre-tout.
Oui, puis je suis persuadé que c'est dans la stratégie de campagne.
Mm-hmm.
Je suis persuadé que c'est ça. Et effectivement, ils peuvent aller chercher. Parce que, tu sais, le sondage, là, c'est pas la débandade pour QS, parce qu'ils sont stables.
Oui.
Dans les derniers sondages, là, ils se maintiennent à 9, à part de la débandade de la CAQ.
C'est un 9% concentré, comme je le rappelle,
exactement,
dans certaines circonscriptions montréalaises.
Mais tu sais, c'est un peu comme quand les libéraux, ils sont de base, on dit toujours à l'élection, une élection générale,
oui,
ils vont aller chercher 40-42 sièges.
Oui.
Ça, c'est leur base, c'est toujours comme ça. Alors, c'est un peu ça qui se passe avec QS. Si on retire le côté du grand village de Montréal comme tel,
mm-hmm,
tu sais.
Mm-hmm.
Donc, oui, il y a possibilité d'aller chercher quelque chose de ce côté-là. Dans ce qui reste au niveau de la CAQ, ça va glisser où? Selon moi, ça va glisser un peu plus vers le PLQ. Il y aura peut-être aussi des résiduels vers le Parti conservateur. Mais pour ce qui est de faire le plein pour le PQ, ça, je pense que c'est effectivement réglé.
Mais dites-vous que si le Parti libéral dépasse le PQ dans les intentions de vote, mettons qu'on donne un 34% au Parti libéral ou un 35, puis un 33 au PQ, ça ne veut pas dire que le PQ va perdre pour autant.
Non,
étant donné qu'il y a plus de circonscriptions qui sont couvertes par le Parti québécois.
Oui.
Alors, selon toi, le PQ n'est pas menacé pour l'instant?
Pas du tout. Non, pas du tout. Puis moi, je dois te dire, tu sais, c'est un sondage, il ne faut pas oublier ça. Le plus grand sondage à 60%, c'est la campagne électorale.
Ben oui, c'est certain. On est loin d'être dedans.
Et je pense que l'équipe du Parti québécois est solide.
Merci, Jacques Plante.
Allez, salut.
Lanaudière PM, tourisme.
Fort d'une étude portant sur le potentiel de développement de l'activité vélo dans la région de Lanaudière, il y a différents intervenants de plusieurs milieux qui entament des discussions pour réaliser des projets porteurs. Une première rencontre qui a eu lieu récemment avec donc entre autres Isabelle Perrault. Elle s'est entretenue d'ailleurs, en fait c'est François Morin qui s'est entretenu avec Isabelle Perrault qui est la préfète de la MRC de Matawinie là, concernant un créneau de constant développement au niveau du vélo dans la région?
C'est vraiment là, une étape importante là, pour le développement du vélo. En fait, la journée du 17 mars, c'était une journée de concertation qui a rassemblé là, plusieurs élus, des gestionnaires d'infrastructures surtout aussi, et des partenaires là, pour faire le point des avancées réalisées, d'aligner les priorités pour les prochaines années. Tu sais, c'est vraiment, c'était grâce à la table des préfets là, qu'on a fait ces, puis tout Tourisme Lanaudière, qu'on a fait ces, cette concertation-là. Fait que là, c'est vraiment d'avoir une vision commune, parce que c'est pas facile, là, de rassembler tout ça. C'est, on traverse plusieurs MRC, pour avoir une structure qui nous permet de coordonner tous les efforts de chacun pour développer une offre cyclable cohérente, durable à l'échelle régionale, et que le vélo, là, ben, tu sais, c'est pas juste un loisir. Le vélo, c'est aussi des saines habitudes de vie qui se développent, de la mobilité aussi durable là, pour les secteurs plus urbanisés. Donc, c'est pour le développement de notre région, autant au niveau touristique que pour nos citoyens, ben, c'est d'avoir une structure durable et structurante là, pour les années à venir.
Parce qu'il y a un potentiel indéniable dans la région, surtout avec ce qu'on a comme, entre guillemets, comme paysage avec les montagnes. Là, il y a quelque chose à faire du vélo. En fait, on peut pratiquement dire que le vélo, ça peut devenir un produit d'appel.
Ben oui, absolument. Tu sais, en Matawini, on a beaucoup de vélos de montagne, là, particulièrement des mises en commun puis des partenariats avec les stations de ski. Donc ça, c'est un volet du vélo qui est extrêmement important pour la Matawini. C'est un produit d'appel touristique. C'est un produit d'appel aussi pour nos citoyens, parce qu'on sait que la Matawini est de plus en plus attractive là, pour venir s'y établir. Donc, c'est le plein air, le vélo de montagne est très certainement un produit d'appel pour chacun de ces secteurs-là. Là.
On parle évidemment d'aménagement, ça coûte des sous, de relais, j'imagine aussi à travers tout ça, ça aussi ça va coûter des sous, et dans l'état actuel des finances publiques, on a un travail à faire là, pour que le privé là, intervienne pour rendre le projet global là, réalisable.
Ouais, on s'entend qu'effectivement les ressources publiques là ont comme des limites, et je pense que c'est aussi une opportunité pour certains partenaires privés de s'investir là-dedans. On parlait des stations de ski, entre autres, là, qui, eux, mettent beaucoup d'efforts et des sommes d'argent importantes pour structurer cette offre de vélo-là, parce qu'ils en ont aussi l'intérêt, là, tu sais, ça, c'est certain. Je pense que plusieurs acteurs privés ont trouvé des opportunités intéressantes dans le développement du vélo, que ce soit les entreprises pour... c'est touristique, mais aussi pour les entreprises qui font du plein air, qui s'assurent là, que dans leur domaine, dans leur industrie, ben, on puisse être capable d'avoir de plus en plus d'adeptes.
Est-ce qu'en bout de ligne, on pourrait réaliser même un circuit supra-régional, c'est-à-dire qu'on pourrait rejoindre entre autres la Mauricie et les Laurentides?
Ben, entre autres avec le sentier national qui est de plein air, qui passe dans toute la nation, dans tout le Québec, dans tout le Canada. Mais il y a aussi des travaux qui ont été réalisés autour du corridor du sentier transcanadien qui relie en fait Terrebonne à Saint-Didas. Là. Donc, c'est vraiment très concret, ça. C'est une belle collaboration là, que notre région peut accomplir. Donc, ça pourra être supra-régional, bien entendu. Parce qu'à Saint-Didas, on s'en va vers la Mauricie, puis Terrebonne, ben, vers Montréal ou Laval.
En terminant, est-ce qu'on se donne un échéancier de réalisation?
C'est un work in progress, là, comment on dit ça, un travail en continu. Puis tu sais, tout le territoire peut être aménagé en piste cyclable, donc il suffit d'avoir des rêves, là, dans le sens qu'on peut avoir des embranchements. Il y a plein de choses qui peuvent se faire là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça peut vraiment être en continu. Puis l'idée de ça, c'est de s'assurer que ça devienne un outil de mobilité dans les endroits où c'est possible. On s'entend qu'à certains endroits, particulièrement à Matawini, ça peut devenir difficile là, vraiment pour un cycliste moyen, mais il y a des endroits où c'est vraiment ça pourrait être un moyen de transport d'appoint intéressant. Là.
Ben, des nouvelles intéressantes d'Isabelle Perrault de la MRC de la Matawinie. Et c'est vrai que Lanaudière, c'est un petit peu parent pauvre en matière de pistes cyclables et de vélos. Si on se compare, par exemple, aux Laurentides avec la fameuse piste du Petit Train du Nord, là, vous pouvez partir de Saint-Jérôme en vélo et vous rendre jusqu'à Mont-Laurier. Imaginez que dans Lanaudière, on pourrait partir, par exemple, de Joliette et se rendre jusqu'à Saint-Michel-des-Saints en vélo. Ce serait pas extraordinaire, ça. Bon, ben voilà. Alors, ce sont de beaux projets. Il est 16h58. C'est déjà tout pour celui qui vous parle. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je salue et remercie nos collaborateurs François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Jacques Plante. Et manquez pas dans un moment Nicolas Bellemare qui sera là pour vous présenter son émission de musique traditionnelle, le 5 à 7 trad, avec vos demandes spéciales. Quant à nous, bon, on sera là demain, 16h, pour une autre édition de La Lanaudière PM. Salut!